Jean Lorrain, Sonilleuse. À Antonio de la Gandara, ces pages d'une lointaine histoire d'enfance ressouvenue devant deux de ses portraits, en ferveur et en mélancolie, son ami Jean Lorrain. Il y a une dizaine d'années, au Champ de Mars, dans la salle même où la folie du mouvement des Espagnols de Danna se déhanchait, se tordait, démoniaque et frénétique, pour l'exaspération grande du bourgeois, presque vis-à-vis de cette peinture exacerbée et brutalement poussée au bleu, sur la même cimaise où Boutet de Montvel exposait la nullité sur porcelaine de ses dianes vaselinées et de ses mondaines aux yeux d'émail, côte à côte avec les hardiesses voulues et les savants jeux de lumière d'un vrai peintre pourtant, M. Alexander, trois grands portraits d'égale hauteur m'attirèrent entre tous par le ton d'agate et la préciosité de leur atmosphère. Avant même d'avoir distingué les personnages debout au milieu de leur cadre, une hallucinante expression de rêve et de réalité m'avait saisi devant ces trois formes, non plus fixées sur la toile par des procédés plus ou moins ingénieux, mais apparues bien vivantes d'une vie de mystère dans l'austérité froide de vastes pièces sans meubles, salons à l'abandon de patriciennes demeures bien propres aux évocations. Et entre ces hauts cadres, ouverts comme des portes sur le vide de je ne sais quel somptueux intérieur, régnait cette indéfinissable atmosphère d'ambre fluide et de gris laiteux, atmosphère étrange où les chairs se nacrent et où les bleus s'irise comme sous un clair de lune, et que je ne connais qu'à trois peintres au monde, Reynolds, Burne-Jones et Whistler. Il représentait trois femmes, ces portraits étaient signés A de la Gandara, trois femmes, toutes les trois debout, une vieille dame en noir, une jeune femme en vert, une enfant en jaune, l'enfant au milieu. La même boiserie grise aux minces filets d'or courait derrière elle, et les faisait toutes trois habitantes dont on ne sait quel équivoque salon d'empire, ou peut-être, qui sait, égarées dans le long corridor d'une maison huchère. Une même vie de fantômes les animait toutes, et leurs ombres portées se tassaient derrière elles, assez inquiétante pour conclure la pièce hantée. Mais la jeune femme et l'enfant surtout obsédaient. Oh, la dame en vert! Dans quel conte d'Edgar Poe avais-je déjà rencontré cette jolie tête expressive et si pâle sous l'or soyeux de ses cheveux? Et ses beaux yeux d'un bleu transparent et humide, ses yeux d'eau, ses deux larges prunelles égarées, comme plaintive dans la supplication d'un éternel adieu. Où avais-je déjà vu, aimé, passionnément aimé, adoré et pleuré dans le rêve ou dans la vie, et cette fine pâleur, et ce délirant profil, et toute la souffrance de cette aristocratie, frappée elle-même dans sa grâce touchante, dans ne sais quelle stupeur? Donna Ligeia, Morella, Bérénice, ou peut-être la si mélancolique et si délicieuse dame, dont la vie, le regard et le sourire s'évanouirent un soir, quand son ami les eut fixés sur une toile impérissable, et qui mourut soutirée d'elle-même par l'adorante ardeur de son peintre, enfermée en tête-à-tête avec lui, et des noms de morbides et fuyantes héroïnes, de belles hallucinées, encore plus hallucinantes, se pressaient sur mes lèvres, sans qu'aucun ne convainc ne s'appliquât pourtant à cette tête douloureuse et charmante. Au satiné de cette nuque de neige, au bleu profond de ces deux yeux bruyants, yeux de larmes et de flammes, comme en la seule agonie amoureuse d'une âme, âme de mère ou d'amante. Serrée dans une robe d'un vert gris, au corsage un peu raide, qui la faisait sans date, elle glissait plus qu'elle ne marchait, d'un pas quasi fantôme, sur le parquet de la haute pièce vide. Le bouffant de ses manches exagérait encore la minceur de son cou, et l'on sentait que la lourde traîne de sa robe devait traîner sans bruit, ainsi que dans les rêves. Lente et souple, avec néanmoins une raideur un peu spectrale, peut-être dans la taille très droite, elle s'en allait, vue de dos, vers le fond de la pièce, déjà presque enfoncée dans le vague des boiseries. Les apparitions des récits fantastiques ont de ces sorties et de ces glissements. Oh, elle ne sortait pas de son cadre, celle-là. Elle ne faisait pas la fenêtre au public. Mais déjà, entourée de mystères, elle s'effaçait avec sa beauté fragile et condamnée comme une ombre chérie qui ne reviendra plus. Et c'est le poignant de cet adieu qui vous serrait le cœur. Adieu de tout ce corps à demi tourné vers vous et vous jetant déjà dans l'inconnu, le « ne m'oubliez pas » de ses yeux résignés et doux. Dans le cadre immédiatement voisin du sien, sur le même fond de froide et somptueuse boiserie, une étrange petite fille, très grande pour ses 6 ans, ouvrait, dans un visage d'enfant peureux et triste, les mêmes larges prunelles transparentes et bleues, les mêmes yeux d'eau hagard et suppliant. Cela devenait hallucinant. Je connaissais aussi ces yeux-là, et j'avais vu cet enfant quelque part. Là, le costume dérangeait et déroutait un peu mes souvenirs. La gaine de soie jaune dont on l'avait affublée, une lumineuse robe d'or toute droite qui en faisait une royale infante, l'auréole de ses boucles brunes auréolant son jeune front, me mettait moins à l'aise que devant le portrait de la mère. Car la frêle dame en vert était certes la mère de ce joli enfant. Le regard vivait trop de la même souffrance, de la même impression d'inquiétude et de tendresse ardente, dans le même bleu de bleuet. Et ce qui me frappait, surtout dans cet enfant, c'est cette façon déjà observée ailleurs, chez une autre petite fille, mais où et quand rencontrée, de tenir la tête inclinée sur l'épaule, cette timidité d'attitude, cet effarement, un peu craintive de petite âme précoce en arrêt devant la vie et qui se replie frileusement, cet air, comme je l'avais baptisé autrefois chez une autre, de petit oiseau tombé du nid. Et voilà qu'en rapprochant maintenant le portrait de l'enfant de celui de la mère, une éclaircie se faisait dans ma mémoire. Un souvenir d'enfance s'y précisait, et quel souvenir ! Soigneuse ! Et toute la mélancolique et mystérieuse aventure qui passionna durant 10 ans la petite ville de province où j'ai été élevé, revécue tout à coup devant moi. Toute cette douloureuse et tragique aventure d'amour dont les héros disparurent du pays sans avoir laissé pénétrer leur histoire et dont 30 ans passés sur une tombe, aujourd'hui introuvable, n'ont pas encore dénoué l'énigme. Soigneuse. Dans la petite ville de l'Ouest où j'aime aller tous les ans, passer la dernière quinzaine d'octobre et vivre là, dans la grisaille des souvenirs, la vie assoupie et presque éteinte des petites villes de province, entre tant d'anciennes demeures, comme à jamais défuntes et murées de silence avec leurs volets clos, une m'attire et me retient entre toutes avec l'obsession d'un regret. Et pourtant, ce n'est ni la maison familiale, devenue aujourd'hui l'étude du notaire, la maison familiale avec les bons naguère de l'enfance et de l'âme, encore neuve, et les douces soirées à la tiède chaleur de la lampe et les feux de charbon. Ni la maison familiale, ni le vieil hôtel patricia de Némont. Ce délin calquant dans l'eau pâle des quais avec des noirs et des haches et d'eau forte, l'hôtel de Némont, morne tombeau d'antique splendeur déjà de mon temps disparu, où dans la longue tristesse des dimanches geignait un piano mélancolique tapoté par les doigts d'une vierge sans dot, Mademoiselle de Némont, entrée depuis aux Ursulines de Caen. Oh, la tristesse des dimanches de province, les volets fermés et les outils au repos. Le passant rare dans l'isolement, léthargique des rues et tant de cloches dans l'air. Il faut avoir vécu, tout enfant comme moi, leur morne somnolence, à ces tristes dimanches, tristes comme un jour de Toussaint, pour en comprendre le vague et le charme à la fois ouaté et monotone, à la longue endormant pour les nerfs et le cœur. La foule entassée dans les églises, où se traîne la sourde mélopée des vêpres, et sur le quai, la promenade solitaire des douaniers de garde, devant la mer remueuse et l'éternel recul de l'horizon. C'est là que mon rêve s'en retourne en souvenir tranquille, vers un pavillon Louis XIII entouré de grands murs, déjà très loin dans la vallée, à l'abri des rafales de l'ouest et des rumeurs du port, dans le quartier dévot des couvents et des églises, tout assourdi de carillons. Bâti sur l'emplacement d'un ancien cloître d'Annonciade, au fond d'un de ces grands jardins de boulingrins et de quinconces, comme on n'en voit qu'en province, même par les temps maussades du littoral, où le ciel est toujours gros de nuages et de grains, il rayonnait, comme d'une gaieté, au fond de sa grande avenue de marronniers, ce pavillon de Sonnieuse. Du nom de son propriétaire, le marquis de Sonnieuse, qui ne l'habitait pas d'ailleurs. Le marquis de Sonnieuse, une des plus grosses fortunes foncières de la province, noblesse d'épée devenue noblesse de robe, et président du tribunal de Rouen, où les Sonnieuses vivaient de père en fils depuis 2 siècles. Quel caprice ou quelle ordonnance de la faculté, prescrivant à une des frêles jeunes femmes de la famille l'air réconfortant de la mer, avait jeté cette élégante architecture Louis XIII, briques roses aux lourds entablements de pierre, dans ce coin de vallée de la côte, au cœur même de cette vieille ville morte, dans ce quartier froid et dont les lents carillons d'église, sonnant tous les quarts d'heure, étaient le seul mouvement et comme la respiration monotone, lourde fleur de fer, s'effeuillant d'ennui. On le savait. De père en fils, le marquis de Sonnieuse, le chef de famille en personne, avait coutume de venir 2 fois par an, à Pâques et à la Saint-Michel. Il descendait au pavillon et y demeurait 2 jours, le temps d'y recevoir ses fermiers qui venaient payer leurs termes. Les deux Sonnieuses étaient propriétaires de la majeure partie des terres des environs. Pendant ces 2 jours de l'année seulement, on voyait s'entrebâiller les persiennes du rez-de-chaussée, toujours hermétiquement closes. Puis le marquis partit. Le pavillon inhabité retombait dans son ensommeillement, mais n'en gardait pas moins, malgré son abandon, la gaieté de ses murailles, pierres blanches et briques roses, éclatantes au milieu de son profond jardin aux ombrages dormants. Ce jardin, se terminant du côté de la vallée en une immense prairie plantée de peupliers, bordée par la rivière, avec pour horizon des collines fuyantes, moutonnées de ronces et d'ajoncs, de la presqu'île du Cotentin. Le pavillon de Sonnieuse. Les longues promenades et les doux effarements de mon enfance à travers les allées en berceau et le silence de ces quinconces. Et mes jeux de gamin sur ces pelouses ensoleillées, ces grandes pelouses en herbe folle et engraminées, où pâturaient hiver comme été les 3 vaches du gardien. Ce grand jardin, mi-forêt, mi-prairie, si calme et si désert avec la silhouette au fond de son pavillon, était d'une solitude si particulière que mes nerfs d'enfant, surexcités, finissaient par y vibrer comme les cordes d'une harpe. Et parfois je m'arrêtais au milieu d'une partie de cerceaux ou de toupies, tout frissonnant d'une indicible peur. Et pourtant, c'était un privilège envié par les autres enfants de mon âge que l'accès de cette espèce de jardin fée. Moi seul et ma bonne avions le droit d'y pénétrer. Et c'était par les courtes mais suffocantes chaleurs de juillet, un repos et un bien-être, que les heures de la sieste passées à l'ombre verte de ces hauts tilleuls, dans le calme et le silence de ces pelouses, toutes bourdonnantes de vols d'insectes. Le jardinier, un ancien grenadier de l'empereur, tombé après Waterloo dans ce trou de petite ville, et qui se consolait des gloires disparues en cultivant des fleurs, avait bien voulu confier à mon père une des clés du vieux domaine. « Le gosse y sera plus à Sourdès que sous les châtaigniers du cours !» lui avait-il mâchonné brusquement un beau jour, dans un élan d'enthousiasme attendri devant une collection de tulipes doubles. Des échanges mutuels de graines et de boutures avaient créé une sorte d'amitié botanique entre ce vieux grognard et mon père. Un passionné d'horticulture, comme il n'est pas rare de voir s'en produire aux approches de la cinquantaine, dans la calme vie des bourgeois de province mariés sur le tard. Cela avait commencé par des oignons de jacinthe, des écussons de roses de la Malmaison avaient resserré des rapports déjà par eux-mêmes excellents. On s'était passionné aux chrysanthèmes, et un plan de tulipes avait décidé de la liaison. Ce vieux père Bricard, la physionomie d'un vieux ours blanc avec des cheveux tondus ras, mettant sur son crâne rose un court frisson de neige, et ses moustaches jaunies par le tabac, deux vraies queues de zibeline aux deux bouts retombants. Ce vieux père Bricard logeait dans le fond de son quasi-parc avec le droit de vendre de légumes pour seuls appointements. Ce vieux père Bricard avait voué aux marquises de Sonieuse un culte d'autant plus extraordinaire, du moins chez un tel homme, qu'aucune marquise du nom n'avait mis les pieds au pavillon depuis plus de 100 ans. Certes, il existait des marquises de Sonieuse. Une d'entre elles avait été dame d'honneur de la duchesse d'Angoulême et avait officié aux Tuileries. Ce devait être madame la marquise Douairière, encore vivante et résidente à l'hôtel de Soissons, rue des Carmes à Rouen. La jeune marquise, la belle-fille, une des Bois de Londe-Esprise, dont quelques familles de la ville avaient reçu le faire-part du mariage, un mois après la cérémonie, habitait l'hôtel familial avec son mari, le seul marquis de Sonieuse actuellement vivant. Était-ce pour la marquise Douairière ou pour sa belle-fille que le père Bricard ratissait si infatigablement le sol de son allée principale, celle qui allait de la grille d'entrée au pavillon? Pour la vieille femme ou la jeune mariée, qu'il peignait si consciencieusement la première pelouse s'arrondissant en cœur devant le grand perron? Cela demeura toujours entre lui et sa conscience de vieux militaire. « Je veux que même la marquise n'ait rien à dire, c'est mon idée », s'obstinait-il à nous répéter, à ma bonne et à moi, au cours de mes promenades dans le grand pelardin de la rue Viorne. « Mais puisqu'il n'y a jamais venu votre marquise et qu'il viendra point », s'évertua à lui prouver ma bonne Héloïse. « Mais si elle venait, est-ce qu'on sait jamais avec les femmes ?» Et il reprenait sa bêche ou son râteau, c'était son idée fixe à lui, contenter madame la marquise. Il attendait son arrivée, comme l'avance alors de son colonel. Une dévotion de vieille culotte de peau tournante à la manie dans ce soldat tombé presque en enfance. Dévotion d'autant plus touchante que nul escarpin de marquise de Sonieuse ne vint jamais fouler le sable de cette unique allée si soigneusement entretenue par lui, pas plus que le ray grass de la petite pelouse, objet de ses amours. Il faut d'ailleurs ajouter à sa louange qu'en dehors de l'espace compris entre la grille d'entrée et l'ensommeillé pavillon, Bricard laissait toute la propriété retourner grand train à l'état sauvage. Plus de massifs, des broussailles, du foin de Haut-Pré au beau milieu des allées, du bois taillé dans les quinconces et des vignes vierges en guirlande autour des marronniers du Boulingrin. Quant au potager, une merveille. Châssis, semis, plants de légumes, primeurs de serre et melons sous cloche, Le père Bricard récoltait les petits pois en décembre et des asperges en janvier. De nos jours, le brave homme se serait fait des rentes sur le carreau des halles. L'hiver, il se contentait de vendre ses élèves les prix coûtants aux gourmets de la ville, et l'été, les revendeuses du marché aux herbes lui achetaient sur pied ses champs de fèves et ses carrés d'oignons. Par-ci par-là, entre un plant de chou-fleur et une plate-bande de courge, une corbeille de fleurs de collection. Œillets, chryanthèmes, roses, iris ou tulipes, les plus belles espèces de fleurs de chaque saison. De quoi faire un royal bouquet à madame la marquise? Une marotte à lui, à ce vieux tatillon. Mais si jamais marquise de Saunieuse ne vinrent dans ce beau jardin ensommeillé dont elle portait le nom, il y vint un jour une autre femme. Et c'est pour celle-là que, pris malgré moi au charme du souvenir, j'ai tenté de faire revivre sous ma plume un peu de la demeure où se dénoua si tragiquement ce qu'on soupçonna de son histoire. J'étais pourtant bien enfant, mais je n'oublierai jamais l'impression de ma première rencontre avec Lady Mordaunt. Lady Mordaunt, était-ce bien son véritable nom? Quelle haute personnalité de l'aristocratie anglaise devait-il voiler et ensevelir à toute curiosité? Bien des bruits contradictoires ont couru depuis au sujet de cette Lady Mordaunt, dont l'étrange aventure fut le grand événement de ma première jeunesse, et pendant 10 années, la conversation de cette somnolente petite ville. Mais celle qui devait préoccuper jusqu'à la passion, l'imagination, cependant si calme de toute une société de province, est demeurée mystérieuse. Et l'épitaphe de sa tombe, la tombe qui pour tant de disparus a remplacé le puits antique et légendaire d'où sort la vérité toute nue, l'épitaphe de sa tombe n'a même pas trahi son secret. C'était par un de ces temps clairs et gris d'octobre dont on dit communément en Normandie qu'il fait un temps à retenir les hirondelles, et je musais avec ma bonne par les pelouses de Soyeuse, non loin d'un grand massif de dahlias double aux énormes fleurs tuyautées, encore tout emperlées de l'eau d'une averse tombée le matin. Et mon jeu d'enfant consistait même à secouer l'une après l'autre toutes ces grosses collerettes au-dessus d'un vieil arrosoir. Ma bonne marchait derrière ou devant moi, je ne sais plus au juste, quand un léger bruit de voix nous faisait lever simultanément la tête. De l'autre côté des dahlias doubles, les pieds dans l'herbe mouillée, une dame était debout à quelques pas de moi. Grande, mince et d'une souplesse de taille singulière dans un carrick à petit collet de drap ventre de biche, une nuance d'une douceur extrême à l'œil et dont je n'ai su le nom que bien longtemps après. Elle m'apparut, et dans son vêtement et dans ses allures, dans toute sa grâce même, comme une personne d'une autre race, d'une nature autre que ma mère et que les femmes de la ville que je voyais tous les jours. Sa mise était cependant des plus simples. Depuis, j'ai compris que ce jour-là, elle était en costume de voyage. Mais c'était la première fois que je voyais un carrick à petit collet, et puis la femme qui portait ce carrick était d'une beauté si délicate et si rare. Son cou se détachait si mince et avec une telle élégance, non déjà vue au-dessus du drap de ce menton. Son visage, ouvert et peut-être un peu trop allongé, mais d'une exquise finesse, étonnait le regard par le laiteux et le satiné de sa peau. C'était de la neige dans toute son éclatante transparence, et jamais depuis je n'ai rencontré de chair de femme aussi lumineusement blanche. On eût dit de l'aurore infusée sous ses tempes. Toute enveloppée qu'elle fût de voiles de gaze jaune, bouillonnante au-dessus d'un grand chapeau de paille à la mode d'alors, à travers cette brume dorée, son teint de blonde éblouissait. Mais ce qui achevait de déconcerter dans ce radieux visage et vous poignait en même temps le cœur, c'était les yeux aux prunelles bleues sombres, de saphir presque noir, largement ouverts entre les paupières meurtries, de regards douloureux comme baignés de larmes et frappés cependant de je ne sais quelle stupeur. Oh, l'effarement de ces yeux égarés et charmants dans leurs supplications muettes! J'ai songé depuis bien souvent, et j'ai toujours gardé en moi la conviction que la femme qui portait de tels yeux devait être sous l'influence d'un narcotique ou de quelque mystérieux pouvoir. Ces réflexions, bien entendu, je ne les fis que bien des années plus tard, bien des années après la mort de Lady Mordaunt, quand les événements... Ce jour-là, je me contentais de rester quoi, les yeux béants, devant la belle étrangère. Le père Bricard l'accompagnait, la tête nue et le dos bas, empêtrissant un vieux chapeau de paille entre ses mains. Très humble, il semblait faire les honneurs de soyeuse. La dame, arrêtée à quelques pas de nous, ne nous avait pas vus. Elle regardait probablement devant elle, sans même un but à ses regards. Elle avait repris sa promenade de visiteuse et s'en allait maintenant à travers la pelouse, la démarche sinueuse et molle en relevant sa robe d'une main. Nous vîmes alors, ma bonne et moi, que la dame n'était pas seule. Un homme, que nous ne vîmes que de dos ce jour-là, mais élégant et bien pris dans une redingote olive, la tournure jeune et le jarret nerveux, accompagnait l'étrangère. Son mari, sans doute, car une adorable petite fille qui pouvait avoir à peu près mon âge, de 9 à 10 ans, sautillait, pendue au basque de sa redingote, mettant à chaque bond le rose de ses jambes nues, dans le vert des grandes herbes et dans l'air le brusque envolement d'une nappe de cheveux blonds. « Sur deux Anglais !» résumait dans sa sagesse de paysanne ma bonne Héloïse, une opinion basée sur les jambes nues et les tresses portées en liberté, dénouées sur les épaules de l'enfant. Ce fut tout ce jour-là. Le soir, à table, dans la vie de province, il n'y a pas de petits faits, tout ce qui n'y est pas ordinaire et prévu y prend les proportions d'un événement. Je ne manquais pas de parler de ma rencontre. « Des étrangers dans sonnieuse !» pensait mon père à voix haute. Bricard se serait alors laissé graisser la patte. Voilà qui m'étonnerait un peu et me gâterait un peu mon vieux Bricard. Et puis, se ravisant et s'adressant à ma mère, occupée à servir le potage, « Oh, ne serait-ce pas les Anglais du Grand Cerf ?» Il y avait donc des Anglais au Grand Cerf. Le Grand Cerf était alors la première hôtellerie de la ville. Qu'étaient ces Anglais que je ne connaissais pas? Ma curiosité d'enfant était on ne peut plus surexcitée. Mon père et ma mère échangeaient quelques mots à voix basse. Héloïse, qui servait à table, était interrogée. Et la petite porte les jambes nues et les cheveux sur le dos en désordre. Elle a des cheveux blonds, demandait ma mère. Ouais, madame, de bio cheveux blonds. « Ce sont les Anglais, » concluait mon père. « Ce jour-là, je ne suis pas davantage. » Mais ce que je sus, et à n'en pouvoir douter le lendemain, c'est que Sonnieuse et le magnifique jardin des Annonciades étaient dorénavant porte-close pour moi. Nous nous heurtions, ma bonne et moi, à une consigne inexorable. Le vieux Bricard venait dans la journée réclamer la clé de la petite porte à mon père. Les étrangers, rencontrés la veille au tournant d'une allée, étaient désormais les hôtes des hôtes du pavillon et du jardin. Monsieur le marquis avait loué Sonnieuse à ce couple d'Anglais, et toute une armée de terrassiers, de charpentiers et d'ouvriers peintres y bouleversait déjà, comme main et boulingrin. Sonnieuse, monsieur le marquis avait loué Sonnieuse. On n'en revenait pas dans le pays. Sonnieuse qui depuis 300 ans n'était pas sortie de la famille. Ce devait être sûrement quelque allié ou quelque parent. Et les fermiers, Mais où monsieur le marquis toucherait-il désormais ses fermages? Quels étaient ces Anglais et d'où venaient-ils? Quels motifs les amenaient à S? Les recevrait-on? Étaient-ils mariés? La première question que pose la médisance des petites villes méfiantes à tout jeune homme et toute jeune femme installés depuis peu dans leurs murs. Ferait-il des visites? Leur rendrait-on? Car les connaissait-on? Et le train-train ordinaire de mille et un points d'interrogation malveillantes qu'une société de province dresse autour de tout couple inconnu. Ce qu'on était convenu d'appeler la bonne compagnie de S, quelques familles arrogantes et gourmées de petite noblesse de robe, n'eut pas à se mettre en peine d'impertinence. Lord et Lady Mordaunt ne firent de visite à personne. Retirés derrière les grands murs de Saunieuse, ils vécurent là, dans la solitude absolue, sans paraître même se douter à quel point ils préoccupaient l'opinion. Hormis à la basse messe de 9 heures, à l'abbaye, où une berline de louage l'amenait tous les dimanches, on ne rencontrait Lady Mordaunt nulle part. Lord Mordaunt, un brun à la figure passionnée, à la peau olivâtre, au profil d'oiseau de proie, et qui paraissait aussi jeune que sa femme, promenait presque tous les matins par la ville un superbe cheval de selle qui valait bien dans les 300 louis. Un autre cheval attendait, paraît-il, à l'écurie les ordres et le bon caprice de Milady, mais c'est un caprice qu'elle n'eut pas, car les rares fois où je la croisais, en dehors de l'église, où sa présence me donnait durant les offices de coupable distraction, elle était à pied et toujours accompagnée et de son mari et de l'enfant, la petite fille blonde que j'avais vue avec elle dès le premier jour. Son mari, et il fallait entendre nuancer ces deux mots, son mari, à Madame de Saint-Enoch, entre autres, la femme la plus collémontée de cette petite ville de Hesse, où ses jugements régentaient l'opinion. Son mari et sa fille à elle, car cet homme est bien trop jeune pour être le père de cet enfant. Il a 23 ans, ce soi-disant Mordaunt. Oh, pour moi, cela n'a rien de catholique et recèle quelques mystères. Et c'était aussi la vie partagée par les miens, par ma mère surtout, qui nourrissait pour les étrangers de la rue de Viorne une aversion soupçonneuse. Entrait-il dans ce sentiment un peu de jalousie pour l'exquise joliesse et l'élégance innée de l'étrangère? Ma mère avait-elle puisé cette espèce de malveillance haineuse dans sa fierté d'honnête femme, blessée de ce bonheur irrégulier installé triomphant sous ses yeux? Mais j'eus deux fois l'occasion, tout enfant que j'étais, de me rendre compte par moi-même de cette injuste hostilité. La première fois, ce fut à l'église, à l'abbaye même de S, où le hasard nous avait donné l'anglaise et sa fille comme voisine de chaise et où déjà depuis 6 mois, chaque dimanche, nous entendions, ma mère et moi, la messe basse de 9 heures, à peine séparée des deux étrangères par l'épaisseur d'un fût de pilier. Inutile de vous dire que je ne partageais nullement les sentiments maternels à l'égard de la jolie étrangère. La première impression faite sur mes sens d'enfant dans le parc abandonné de Saunieuse, n'avait fait que croître et grandir. Durant les offices, je ne pouvais me lasser d'admirer cette délicatesse de profil et cette attache de cou qui m'avait tant frappé dès le premier jour. Je buvais des yeux cette transparence de teint et cette éblouissante pâleur qui, dans le clair-obscur de l'église, s'affirmait et pâlissait encore. Comme idéalisée par le jour mystique courbé des vitraux, cette élégance et cette pâleur m'hypnotisaient. Et si j'emploie là ce mot bien moderne et qui détonne avec son terme, nerf de terme technique dans le gris et l'effacé de cette histoire mélancolique, c'est que je n'en trouve pas d'autre pour caractériser l'espèce d'obsession que cette pâleur et cette chair exerçaient déjà sur moi. Depuis, je me suis dit bien souvent que Lady Mordaunt avait dû être mon premier éveil de mes sens mon premier amour de petit garçon imaginatif et précoce. Et cette opinion, j'en trouve la confirmation dans le souvenir de mains et mains petits détails restés fixés dans ma mémoire. Détails très minutieux, inhérents à la femme et dont se préoccupe peu en général l'imagination d'un enfant. Le souvenir de son parfum, par exemple, un parfum pénétrant et doux dans lequel il y avait de l'iris et du jasmin, et que toute sa personne exhalait, tel en juillet un jardin de fleurs. Ce parfum entêtant et suave, tous ses vêtements en étaient imprégnés, et longtemps après sa sortie de l'église, le bas de la nef où elle entendait la messe auprès de nous, en gardait le persistant sillage. Ce parfum, je le respirais toute la journée du dimanche dans ma chambre, au salon, à table, où le subtil effluve me parvenait encore d'elle, et les narines voluptueusement ouvertes, je n'avais qu'à fermer les yeux en le respirant, pour revoir aussitôt ce délicat profil, cette bouche aristocrate, et cette pâleur ombrée d'un large bandeau blond sous une capote de peluche noire. La petite fille aux grands cheveux couleur de seigle mûr, qui gambadait le jour de notre première rencontre, suspendue à la main de Lord Mordaunt, l'accompagnait à l'église. Pauvre enfant craintive et comme dépaysée dans cette petite ville inconnue, au milieu d'habitudes qui n'étaient plus les siennes. Très blanche de peau et toute frêle, elle aussi de structure et d'attache, elle avait déjà dans ses grands yeux bleutés le regard douloureux et surpris de sa mère. Il y avait l'effarement dans les timides coups d'œil qu'elle nous jetait parfois en entrant à la messe, comme à la dérobée, avant de se mettre à genoux. Mais quelle adorante et fervente tendresse dans ce doux visage, quand ses beaux yeux effarouchés se venaient reposer sur les yeux de sa mère. C'était touchant de les voir ensemble, cette mère et cette fille s'idolâtraient. Pauvre petite, je crois la revoir encore avec son air d'oiseau tombé du nid, comme disait en parlant d'elle notre vieux médecin, le docteur Lambrunet, le seul homme de la ville admis à Saunieuse, et qui, lui, se rendait souvent dans le pavillon interdit, appelé auprès de l'enfant de ses Anglais, une petite santé dans sa fragilité de fleurette de luxe. C'était pour la santé de cette petite fille que Lord et Lady Mordaunt étaient venus habiter à S. Les médecins de Londres avaient ordonné l'air salin et tempéré, pourtant d'une vallée de la côte normande, à la poitrine un peu frêle de l'enfant. C'était du moins la raison que donnait de leur séjour le docteur Lambrusnay. Il était de l'aube au soir, assailli de toutes les questions de la ville. Le docteur était le seul homme qu'on reçut à Saunieuse. Ces Anglais mystérieux seraient venus s'ensevelir à S rien que pour cet enfant. Oh, la société de S n'en voulait rien croire. Il y avait certainement autre chose, mais quelle était cette autre chose? Le vieux médecin n'en soufflait mot. Toujours est-il qu'il soignait l'enfant, ou les deux, ajoutait la sainte Néenoc. Je ne sais plus su pourquoi, mais l'opinion publique voulait que Lady Mordaunt fût encore plus atteinte et souffrante que sa fille du mystérieux mal que leur assignait S comme ville de guérison. Elle était si frêle et si pâle, cette Lady Mordaunt. Si étrange était surtout l'expression de ses larges prunelles, de ses grands yeux noyés et comme hagards. On avait d'ailleurs remarqué qu'elle n'allait jamais du côté de la mer. Toutes leurs promenades à trois, le père, la mère et l'enfant, étaient toujours dirigées dans la campagne, en dehors de la ville, et quand on les rencontrait durant les longues et chaudes journées d'août, et parfois même assez tard dans l'arrière-saison, par ces clairs et mélancoliques ciels d'octobre qui sont le charme de la Normandie, c'était toujours dans les vallées, à l'entrée de quelques sentiers sous bois ou à la lisière de quelques futaies reculées solitaires. La petite fille, on la rencontrait encore, promenée sur les quais le long des bâtiments du port, à la main de son père. Mais Lady Mordaunt, elle, jamais ne dépassait l'emplacement de l'abbaye, qui appuie ses assises au cœur même de la ville. On aurait dit qu'elle craignait la mer et tout ce qui pouvait venir de la mer. C'est une femme qui se cache, le mot était encore de la sainte Enoch. Et c'est vis-à-vis de la femme qui se cachait que je surpris par deux fois ma mère. Et pourtant, ma mère était bonne. En flagrant délit de cette espèce d'arrogance hostile et soupçonneuse qui était l'esprit même des femmes du pays. La première fois, ce fut à l'église, à l'abbaye où nous avions coutume, ma mère et moi, d'entendre la même messe basse que les deux Anglaises de Saunieuse, séparées des deux femmes d'une distance d'à peine quelques pas. Pendant toute la durée des offices, ce pauvre petit oiseau tombé du nid de Miss Mordaunt, qui ne devait pas s'amuser tous les jours, élevé à l'écart et comme emmuré, sans jamais frayer avec d'autres enfants, cette pauvre petite Miss Mordaunt ne cessait de tourner de mon côté l'effarement de ses grands yeux quémandeurs. Mais elle n'aurait pas demandé mieux que de faire connaissance, la pauvre petite isolée. Mais elle n'osait, surveillée qu'elle était par les regards à longs cils baissés de sa mère, peu encouragée d'ailleurs par la physionomie très renfermée de ma mère à moi, mais manifestement surexcitée par mes mines sous cap et mes sournois simagrées de vaurien. Au courant d'une de ses comédies muettes, son livre de messe, un bijou de reliure gainé de velours mauve, et dont j'avais depuis longtemps déjà remarqué les fermoirs faits de trèfles d'émail, lui glissait entre les doigts. Il glissait donc, ce livre, et venait avec bruit mat se fermer à mes pieds au beau milieu des dalles poussiéreuses. Elle, toute cramoisie, en était demeurée coite, et je me baissais déjà pour ramasser ce livre et le lui rendre, quand ma mère, qui avait vu le mouvement, me tirait brusquement par le bras et, de surprise, je restais interdit et tout droit. Lady Mordaunt se baissait alors le plus naturellement du monde, et par une inclinaison de tout son beau corps souple, ramassait le livre à terre et le remettait ouvert entre les mains de l'enfant. Mais elle n'avait rien perdu de la scène et du mouvement de ma mère, car ses belles mains tremblaient un peu à elle aussi, en feuilletant son paroissien pour y retrouver sa messe, et dans le regard surpris qu'elle jetait sur moi, il y avait comme un remerciement. Mais pourquoi ce regard était-il si étonné? Qu'avais-je fait de si héroïque qu'on en parut surpris? Ma mère, qui était foncièrement bonne, eut-elle le regret de l'impertinence gratuite faite à Lady Mordaunt dans son enfant? Toujours est-il qu'après l'itémissa est, elle se levait, dépêchant ses prières, et se trouvait en même temps que les Anglaises auprès du bénitier. Lady Mordaunt, levée la première, avait déjà trempé sa main gantée de gris. Ma mère, alors, comme si rien n'était, mouillait elle aussi ses doigts dans la vasque de marbre, et se tournant vers la petite Mordaunt, tendait à ses deux peureux enfants sa main humide d'eau bénite. Lady Mordaunt avait une imperceptible inclination de tête et de passait. Ce qui n'empêche pas que le même jour, au déjeuner, ma mère avec mon père avait cet entretien révélateur. « Tu seras bien aimable à la première occasion de demander au bedeau de changer mes deux places et de me faire avancer vers le cœur. Les dames anglaises de Saunieuse donnent des distractions à ton fils pendant les offices. » Je baissai le front et ne sonnai mot. Le dimanche suivant, nous prîmes place, ma mère et moi, sous la chaire même du prédicateur à Minève du cœur. En pénétrant dans l'église, je jetai un rapide coup d'œil vers mes anciennes places. Lady Mordaunt et sa fille n'y étaient plus. Elles aussi avaient abandonné un voisinage important et étaient montées vers le cœur, mais du côté juste opposé au nôtre. La grande travée nous séparait désormais. Lady Bordant et ma mère se rencontrèrent encore ce dimanche-là auprès du bénitier, mais il n'y eut ce jour-là ni au bénit offerte ni inclinaison de tête. La seconde fois, ce fut au cours d'une de ces longues promenades aux environs de Hesse, où mon père, un enthousiaste de la nature, élève à l'école de Saint-Jacques, avait coutume de nous emmener, ma mère et moi, tous les dimanches de 6 mois de l'année, depuis le dimanche de Pâques en avril jusqu'à la Toussaint dans l'arrière-saison. Parmi les admirables paysages de cette région de l'Ouest, toutes de bois et de prairies avec les vallottements des falaises voisines, ma famille avait adopté quelques sites, et parmi ces sites favoris, une étroite valleuse, profondément encaissée dans un pli de colline, tout en haute futaie mêlée de bois taillis, une espèce de forêt séculaire envahie de ronces et de lianes, un coin de nature fée, éclose on ne sait comment, mystérieuse et sauvage au milieu des reposantes intimités, parfois un peu poncive de cette grasse Normandie. Cette Normandie aux verdures toujours neuves et lavées par les pluies, qu'un de ses conteurs enamourés, M. Barbet de Révilly, a comparé à une jeune fille aux joues fraîches, tout humide de larmes. Je n'avais que 12 ans, mais liseur enraché de romans, de chevalerie et de cerveau déjà farci de récits épiques et d'histoires fabuleuses, j'avais, dans mon imagination d'enfant, baptisé ce coin feuillu et solitaire du nom charmant de Brocéliande. Brocéliande, la forêt des pommiers du pays de Bretagne, où l'astucieuse et svelte V. Viviane prit à son piège le vieux mage Myrdim. Brocéliande, où depuis 100 ans le vieux barde oublié dort enseveli dans l'herbe, son sommeil sorcier, exilé de la mort et rayé de la vie. Les genêts étaient d'or et d'ambrocéliande. L'iris bleu, ce joyau des sources de lavande, et la menthe embaumait. C'était au mois béni où le hallier s'éveille à l'enfance des nids. Et les pommiers neigeaient dans les bois frais et calmes, au pied d'un chêne énorme entre les vertes palmes, des fougères d'avril et des touffes de lys. Viviane Myrdim était dans l'ombre assis. Ces vers, que je composais beaucoup plus tard dans ma 20e année, j'ai toujours pensé qu'ils m'avaient été inspirés par une tenace et délirante impression d'enfance, et si j'ai tant célébré depuis en prose et en vers la galloise Viviane et l'enchanteur Myrdim, l'image de Lady Mordaunt, certes, n'a pas été non plus étrangère à cette obsession d'une légende plus anglaise en somme que française, et à l'espèce d'amour posthume voué par moi au-delà de l'espace et du temps à la blonde ennemie de Merlin. Brocéliande. Ce coin de parc en forêt s'appelait en réalité Franqueville. Brocéliande, c'était bien Brocéliande, en effet, où je me promenais avec les miens, ce jour-là, un clair et chaud dimanche de juin. Brocéliande, avec l'enneigement fleuri des pommiers sauvages, crispant leurs troncs rugueux dans l'ombre des sapins, et ce grave silence où palpitaient comme des voix, effroidèles dans les feuilles, bruit de pas sur la mousse, et dans l'air cette enivrante odeur d'amande amère que répand l'aubépine en fleurs. Comme nous grimpions tous trois, mon père, ma mère et moi, par un étroit sentier raviné, des vallons raides sous bois et tout obstrués de branchages et d'énormes racines traînant en nœuds de serpents sur l'argile des talus. Je me souviendrai toujours du bleu intense et cru du ciel qui brillait ce jour-là sur nos têtes. Nous nous rencontrions nez à nez avec les Anglais de Sonnieuse, père, mère et enfant. Nous montions et eux descendaient la sente. Lady Mordaunt avait-elle reconnu ma mère? La sente était, je crois l'avoir dit, très étroite. Avec une politesse exquise, les hôtes de Sonnieuse se rangeaient tout contre le talus et s'effaçaient pour nous laisser passer. Mais dans ce mouvement, le grand chapeau de paille de Lady Mordaunt se trouvait accroché à une branche, et tout à coup, décoiffée au passage, l'Anglaise s'arrêtait brusquement, la taille et les épaules comme inondées, submergées d'aurore, subitement drapées dans un manteau d'or blond. Sa magnifique chevelure s'était dénouée au passage, et son poil entraînant avait déferlé comme une vague de sa nuque au talon. Ce fut un éblouissement. Lady Mordaunt portait ce dimanche-là un spencer ajouté de soie verte sur une robe de mousseline blanche à volant. Dernière magie, un rayon s'était pris dans ce métal en fusion. Mon père et moi avions fait halte malgré nous, stupéfiés, admirants. Cette adorable et frêle vision blanche, coiffée d'une coulée d'or jaune et se détachant en traits de lumière sur les ténèbres vertes et mouvantes d'un bois, oh, je marchais, moi, ébloui, en plein rêve. Et ce Franqueville était bien Brocéliande. Viviane y surgissait dans le creux des ravins. Avec quel air et quels yeux de passion Lord Mordaunt s'approchait alors de sa femme. L'inquiète adoration de ses gestes en lui venant en aide et en essayant de réparer le désordre de sa coiffure. Oh non, il faut avoir vu cela pour comprendre la folie quasi sauvage qui sans doute enflammait leur liaison. Tout priait et tout implorait en ce fier profil d'oiseau de proie, Milan sous l'apprivoisé. Et la ferveur de ce regard ordinairement d'onyx, méfiant et dur, cet homme au nez en bec d'aigle, au teint chaud et torréfié, avait lui aussi, sous ses sourcils rejoints, nets et tracés comme à l'encre de Chine, des yeux bien curieux, des vrais yeux de pierreries éclatants et froids. Mais ce jour-là, les pierreries avaient, je vous assure, toute l'humidité de la passion. J'étais bien jeune encore pour analyser tout cela, mais en surprenant le regard de l'Anglais à sa femme et le coup d'œil qu'elle lui rendit, elle, la bouche entrouverte dans la moue d'un demi-sourire, j'eus la sensation qu'on m'étreignait le cœur, et pour la première fois, je connus la morsure de la jalousie. Mais cet incident dura à peu près une minute, et je mets une heure à le raconter. Lady Mordaunt s'activait maintenant, très confuse, à réparer le désordre de sa coiffure, et, des épingles à cheveux entre les dents, les bras levés, dans un mouvement qui mettait en valeur et son buste et ses hanches, elle avait tordu sa chevelure en gros câbles et essayait de faire mordre même un peigne de corail rose, d'un rose de fleurs roses dans toute cette mousse d'or. Mais la fleur rose, c'était Lady Mordaunt elle-même. Honteuse comme d'une impudeur de cette chevelure étalée, un flot de sang lui empourprait le cou, les lèvres et les joues, et cramoisie dans l'échancrure de son spencer de soie, elle se recoiffait hâtivement, fébrilement. Et son sourire gêné dégénérait en mou, et ses beaux yeux effarés et craintifs semblaient implorer grâce. Il demandait pardon, ses yeux. Elle parvenait enfin à reconsolider sa coiffure, et avançant d'un pied menu, elle passait furtivement, légère. Le mari soulevait son chapeau et suivait. Nous étions restés tous trois béants à la même place. Mon père et moi rendions le salut, et nous continuions notre route. Ma mère demeurée un peu en arrière, muette et froide, nous toisait d'un regard, et remontant d'un haussement d'épaule son mantelet de satin sur son dos, « Ces créatures !» laissait-elle tomber assez haut pour que l'Anglaise eût pu l'entendre. « Ces créatures !» Et de toute la promenade, elle ne souffla mot. ces créatures. Or, ce que mon imagination d'enfant travailla longtemps sur cette boutade, ces créatures. Lady Mordaunt n'était donc point comme ma mère et les autres femmes que je voyais à la maison. Ces créatures, phrase hautaine de bourgeoise respectée, qui tue comme une balle et déclasse d'un mot. C'est dans l'année même de cette rencontre qu'éclata la tragique aventure qui devait briser ces deux existences et réduire en poudre l'apparence de leur bonheur, et cela à propos justement de cette effarouchée et craintive petite fille qu'ils traînaient toujours sur leurs pas, elle avec des yeux d'adoration et des gestes implorants de sollicitude, lui avait eu une complaisance attentive de Sigismée, plus galant que paternel, évidemment préoccupé de l'enfant à cause de la mère. Ces deux pauvres petites Miss Mordaunt, si jolies, si pitoyables, surtout avec son frêle et délicat visage, éternellement penché sur son épaule gauche, l'air si petit oiseau tombé du nid, comme disait le docteur, et la gaucherie de ses petites mains maladroites d'enfant esselée qui s'ennuie. Nous la rencontrions souvent par la ville, tenue à la main par son père et trottinant de toute la force de ses petites jambes nues pour régler sa marche sur le pas ferme et comme emporté de l'anglais. Depuis les places changées à l'église, elle n'osait plus lever sur nous la supplication muette de ses yeux. Elle nous préoccupait cependant, et plus que nous ne l'avouions, ma bonne et moi, cette mélancolique et solitaire enfant de riche, pauvre petite paria qui jamais ne parlait à personne et à qui personne jamais ne parlait. Elle s'appelait Hélène et c'est tout ce que nous savions d'elle. Mais il n'était pas de jour où ma bonne et moi, soit au retour, soit à l'allée de notre promenade à l'entrée des champs, nous ne passions comme indifféremment par cette froide et calme rue Viorne, devant la grille même de Sonnieuse, où ne nous manquions pas de nous arrêter. Le pavillon dressait toujours au fond de la grande allée de marronniers sa silhouette à toits élevés guillochée de lucarnes. Les lourds entablements de pierre se détachaient même plus blancs qu'autrefois sur la rouille des briques, aujourd'hui soigneusement lavées. Mais Sonnieuse n'en gardait pas moins son aspect de pavillon dormant au milieu de ses pelouses et de ses grands ombrages immobiles, comme figés dans un séculaire oubli. Au loin, la fuyante vallée, et il semblait d'autant plus dormir ce mélancolique domaine de Sonnieuse, dont le nom revient à chaque instant au bout de ma plume, avec l'obsession d'un glas, que tout occupé qu'il fût maintenant par ces Anglais indéchiffrables, les persiennes en étaient hermétiquement closes, du côté de la rue du moins. Les Mordaunt habitaient les appartements donnant sur la vallée. Il y avait même, chez ces Anglais, un tel besoin de se retrancher tout vivant du monde et de vivre caché à tous les yeux, qu'ils avaient fait refaire à neuf les anciens volets de bois de la grille, et que certains jours, ma bonne et moi, nous nous heurtions à une barrière d'auvent peint du rouge le plus cru, comme l'étal d'un boucher. Ces jours-là, plus de Sonnieuse. Un caprice de Lord ou de Lady Mordaunt nous avait dérobé la vue du mélancolique et vieux domaine, ce domaine dont leur présence nous avait déjà exilés. Mais, en nous en retournant un peu penauds, ma bonne et moi, de notre curiosité déçue, ce que nous regrettions, ce n'était pas de n'avoir point vu les hauts marronniers de trois siècles ou les gazons peignés au râteau des pelouses, mais la petite Anglaise, souvent entrevue à travers les barreaux de cette grille assise sur un banc, la tête d'un gros chien sur ses genoux, ou un cerceau à la main, debout au milieu d'une allée. Pauvre petit oiseau, l'air toujours si désemparé et si triste, et pourtant si joliment et si simplement attifée, si bien mise, presque nues, hiver comme été, dans de délicieuses petites robes blanches ou d'autres alors de nuances adoucies et exquises. Cette petite abandonnée avait un trousseau de princesse. Il fallait que ces Bordaun fussent immensément riches pour habiller une enfant de 11 ans avec un luxe qu'aurait eu à peine pour les siens un grand seigneur millionnaire de Paris ou de Londres. Elle n'en avait pas l'air plus gaie pour cela, la pauvre petite. Elle avait bien un cerceau ou une balle dans les mains, mais je ne me souviens pas de l'avoir jamais vue jouer. Elle demeurait toujours là, immobile, plantée dans le sable uni d'une allée, ou bien s'y promenait, très grave, à pas compter. Avant l'aventure du livre à l'abbaye, sous la persistance de mes regards, elle finissait par regarder aussi, et me reconnaissant pour son voisin de chaise, m'adressait de très loin un vague sourire, mais jamais elle ne s'approcha, jamais elle ne fit même un mouvement vers nous. Ce devait être une nature très timide et très fière. Depuis la malencontreuse affaire du paroissien, quand elle m'apercevait du fond de son allée, elle tournait la tête et s'en allait à petits pas. Enfance douloureuse et voilée de mystère.